France Inter.
France Inter. Le 18-20, Christelle Rebière.
On a volé les bijoux de la couronne. On se croirait dans un thriller, mais au-delà du braquage, on a envie de comprendre quelles conséquences ce vol au musée du Louvre peut avoir sur le soft power français. Car le Louvre s'exporte, tout comme le Centre Pompidou ou le musée Guggenheim. Dans quelle mesure les musées servent-ils l'image et l'influence de leur pays? On en parlera avec notre invité, directeur de la rédaction du magazine Beaux-Arts. Et vogue la pollution. Il n'y aura pas d'accord mondial sur la décarbonation des bateaux. Dans l'immédiat, Frédéric Saïs nous racontera comment Donald Trump a tout fait capoter. Et puis la colère de la Gen Z. Le reportage nous emmène en Indonésie. Moins de manifestations ces derniers jours, mais une colère plus sourde.
Ils volent l'argent du peuple pour vivre une vie de luxe. Et ça met ma génération en colère.
La Gen Z encore, nous vous mettrons aussi dans l'oreille ce qu'elle écoute, mais cette fois-ci au Maroc. Il y aura du hip-hop dans la BO du monde et dans Sous les radars. Chypre qui cherche à se réunifier et le port du voile obligatoire dans les transports au Mali. Installez-vous confortablement, pas besoin d'attacher votre ceinture. Décollage imminent pour notre tour du monde.
The breaking news from Paris, thieves staging a heist at the Louvre Museum targeting priceless jewelry.
Über den spektakulären Einbruch heute morgen in den
Vol au musée du Louvre, les bijoux de la couronne dérobés en plein jour, la nouvelle, vous l'entendez, a fait le tour de la planète. Le Louvre, le plus visité au monde, près de 9 millions de curieux qui empruntent la pyramide et arpentent les salles. Le Louvre, devant les musées du Vatican et le British Museum, c'est presque un symbole mondial. Et passer la stupéfaction reste une émotion, car le Louvre, c'est un peu comme la cathédrale Notre-Dame, un incontournable qui semble nous appartenir. Alors ce soir, on a envie de comprendre à quoi servent vraiment les musées. Lieu de culture, bien sûr, mais aussi de soft power, c'est-à-dire d'influence. Le Louvre, toujours lui, se décline à Abu Dhabi, mais il n'est pas le seul. Et pour certains pays, la construction de nouveaux musées est un incontournable, par exemple en Chine. Bonsoir Fabrice Bousteau.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur de la rédaction de la revue Beaux-Arts et nous rejoindrons notre correspondant à Rome, Bruno Duvic, dans quelques instants. D'abord, Fabrice Bousteau, êtes-vous surpris par le retentissement mondial de ce braquage ?
Non, je ne suis pas surpris parce que ça montre que la marque, entre guillemets, Louvre est considérable. Ça veut dire que l'impact international, tous les médias, j'ai dû répondre à 6 interviews de médias étrangers dans la journée, c'est que le Louvre fascine et Paris fascine. Dites-vous aussi que va être inaugurée par exemple ce soir la nouvelle fondation Cartier presque en face le Louvre, réalisée par Jean Nouvel, et que Paris, la ville du monde, ce qu'on oublie toujours de dire, où il y a le plus grand nombre d'expositions, avant New York, avant Londres, et c'est aussi la ville où il y a le plus grand nombre de spectacles. Donc Paris, c'est la capitale de la culture, c'est la ville lumière, et le Louvre en est sans doute un des principaux flambeaux avec la Tour Eiffel.
Alors, la sécurité, est-ce le talon d'Achille du Louvre, mais au fond de tous les grands musées dans le monde ?
Oui, bien sûr, parce que, vous savez, il y a eu beaucoup de braquages de musées, y compris avec des armes. Et aujourd'hui, les musées, l'origine, au début, on pillait les églises, puis les petits musées, et il y a toujours des failles de sécurité. D'ailleurs, la présidente du Louvre avait commandé un audit sur la sécurité. En l'occurrence, ce qu'il faut noter, c'est que là, toute la sécurité était respectée. On dit qu'il y a, au lieu dans la salle, il y avait 5 gardiens au lieu de 6, d'accord, mais la sonnerie a retenti. Et surtout aussi, il faut pas oublier que on assure la sécurité des publics. Le public qui était là a été entre guillemets confiné dans certaines salles parce que ça aurait très bien pu être un attentat. D'ailleurs, on évoque la possibilité que ça soit une attaque d'un pays étranger.
Mmh. Bonsoir Bruno Duvic.
Bonsoir.
Correspondant France Inter à Rome. On a eu envie d'en parler aussi avec vous parce que rien que les musées du Vatican sont les plus fréquentés au monde après le Louvre. Alors qu'en dit-on chez vous en Italie ?
Alors d'abord, sujet sensible, la sécurité, la Galerie des Offices à Florence par exemple, pas un mot, même micro éteint du sujet. Tous les responsables interrogés aujourd'hui soulignent le caractère exceptionnel du casse au Louvre. Mais question tout de même sur la facilité avec laquelle les escrocs ont forcé les vitrines où étaient les bijoux. Angelo Crispi dirige l'un des grands musées nationaux italiens, la Pinacothèque de Brera à Milan.
Les bijoux doivent être conservés dans des vitrines blindées. Si ce n'était pas le cas, c'est une erreur qui se paiera cher. Parce que s'ils sont démontés et vendus, on perdra des témoignages historiques et ce sera une perte irrécupérable.
L'ancien directeur d'un des grands musées transalpins pointe aussi les réductions de personnel en France comme en Italie. C'est pire en Italie, dit-il. En théorie, on a 2 gardiens par salle. Quand on en a 2 par étage, on est content. Cela dit, personne ne reproche aux gardiens de ne pas être intervenu hier. On protège les visiteurs avant les œuvres.
Fabrice Boustot, la sécurité ne peut jamais être parfaite.
Elle ne peut jamais être parfaite. Et ce qui est important de dire, c'est que, en l'occurrence, les vitrines étaient en haute sécurité. Et savez-vous par qui elles ont été conçues? Elles sont conçues par Cartier. Cartier qui doit protéger des pièces de haute joaillerie, qui fait
fréquemment l'habitude de
braquage.
Effectivement. Alors, Fabrice Boustot, qu'est-ce qui est abîmé, au fond, avec cette histoire? On parlait tout à l'heure de la marque Louvre. Expliquez-nous ce que c'est aujourd'hui. Au-delà du rayonnement de la France, la marque Louvre, elle se décline aussi à l'étranger. On pense à Abu Dhabi, par exemple.
On pense à Abu Dhabi, d'ailleurs qui fêtera en 2027 les 10 ans de sa réalisation. Abu Dhabi, il faut imaginer que c'est 1,2 million de visiteurs par an, dont 80% de touristes. Et j'entendais votre introduction sur le sujet. Évidemment, c'est le soft power. C'est que ces touristes qui arrivent, ils arrivent aussi pour d'autres éléments sur Abu Dhabi, mais la culture est essentielle. Et d'ailleurs, l'année prochaine, Abu Dhabi va inaugurer le Guggenheim Abu Dhabi. Donc, c'est parce qu'on crée ces grands musées que on réussit à capter des touristes. Et la marque Louvre, c'est la marque la plus connue au monde, avant la marque Guggenheim, avant la marque Pompidou, et ça fascine toujours énormément. J'irais même dire que le paradoxe, c'est que avec ce vol, eh bien le Louvre a une campagne de communication considérable parce qu'il a protégé les visiteurs et qu'il y a un vol d'œuvres d'art, mais qu'on parle du Louvre dans le monde entier.
Mais alors, cette marque, elle est abîmée ou pas, au fond? Parce que vous êtes en train de nous dire, finalement, c'est peut-être un bon coup de pub.
Je ne crois pas qu'elle soit abîmée, parce que le Louvre exerce une fascination considérable. C'est l'événement, on pourrait les mettre en parallèle, vous l'avez mis en parallèle avec un peu Notre-Dame. Quand Notre-Dame a brûlé, ça a créé la stupéfaction mondiale, tellement les gens sont attachés, quelle que soit leur religion, leur culture et leur origine géographique, à Notre-Dame. C'est la même chose sur le Louvre. Il suffit d'aller, et je le fais régulièrement, devant la pyramide pour voir le nombre de touristes étrangers qui frémit de plaisir à y rentrer.
Et pourtant, Fabrice Boustot, il y a une compétition mondiale actuellement qui est assez sévère entre les musées, non ?
Qui est considérable, surtout depuis une vingtaine d'années. La Chine, entendez qu'on estime que la Chine a construit le même nombre de musées en 20 ans que l'Europe en 100 ans. Et la Chine a bien compris que pour attirer des touristes, pour avoir une image culturelle très forte, il fallait construire des musées. C'est le cas aussi de la région du Moyen-Orient, qui, avec le premier étant Abu Dhabi, qui a lancé ses grands projets avec le Louvre à Abu Dhabi, Guggenheim à Abu Dhabi, le musée Cheikh Zayed avec les meilleurs architectes du monde. Et la même chose en ce qui est en train de se passer en ce moment avec les Émirats, avec l'Arabie Saoudite, qui est en train de construire des musées absolument considérable pour pouvoir suppléer l'abandon du pétrole dans 30 ans et faire de l'Arabie Saoudite une terre de tourisme.
Bruno Duvic, je reviens vers vous, toujours en direct de Rome. On parlait de compétition internationale, les grands musées ont une réputation à tenir. Est-ce que vous, en Italie, on considère que l'image du Louvre est abîmée?
Alors l'expression « plus grand musée du monde » vaut toujours en Italie, mais on rappelle que nous sommes dans un réseau international d'établissements. Écoutez ce qu'en dit le directeur de la Pinacoteca de Brera à Milan.
Clairement, cela abîme l'image du musée. Mais le préjudice le plus grand, de notre point de vue à nous, dirigeants de musée, c'est quand la directrice du Louvre avait reconnu les mauvaises conditions de conservation des œuvres, parce que ça peut bloquer des prêts entre musées. Si les salles ne présentent pas les conditions de sécurité exigées, les tableaux ne sont pas prêtés. Donc oui, il y a un préjudice pour l'image du Louvre au sein de la communauté scientifique internationale. Mais nous sommes tous certains que l'État français redonnera vite tous les standards requis pour un lieu aussi symbolique.
Questi standard a un luogo così simbolico.
Et cette réflexion, Christelle, vaut aussi pour les partenaires privés des grands musées qui pèsent lourd dans le budget annuel.
Et aujourd'hui, il y a toujours plus de visiteurs, Bruno, mais à quel prix ? Qu'en dit-on en Italie ?
Les musées doivent assurer deux missions contradictoires, montrer et protéger, dit un ancien directeur. La course aux millions de visiteurs accroît encore la tension entre ces deux missions. Plus le nombre de visiteurs augmente, plus il risque d'y avoir d'accès, par exemple, difficile à sécuriser. Les musées du Vatican devraient voir passer 7 millions de personnes cette année. Ce sera un record. Écoutez Barbara Iatta, leur directrice.
Je pense que plus de 7 millions de visiteurs, ce n'est pas physiquement possible. Dans certains points stratégiques des musées, il y a vraiment beaucoup de monde. Nous ne pouvons pas élargir davantage les horaires. Parfois, nous avons des étudiants qui nous donnent un coup de main et font les gardiens, mais un gardien doit connaître le musée et ses règles. J'ai entendu que ma collègue française avait eu des plaintes de certains gardiens à propos de la sécurité. Nous ne voulons pas en arriver là, donc nous ne pouvons pas faire plus.
L'aspect positif de cette affaire, dit l'un de mes interlocuteurs peut-être un peu optimiste, c'est que cela va faire prendre conscience aux autorités politiques de l'importance d'accorder des moyens au musée.
Eh bien justement, merci Bruno. Fabrice Bousteau, est-ce que vous êtes d'accord avec ça ?
Je suis d'accord. Je retiens quand même que quand la présidente du Louvre a annoncé le plan Renaissance, vous savez, de créer une salle pour la Joconde, il y a eu beaucoup de réactions politiciennes disant « Mais comment ça, on va encore dépenser 500 ou 800 millions d'euros pour le Louvre ?» Aujourd'hui, on entend absolument le contraire. Il faut imaginer que de toute façon, il y a des réductions budgétaires sur le budget global de la France et que les budgets ne sont pas extensibles. Et évidemment que ça va bénéficier au Louvre pour pouvoir obtenir des moyens pour accroître la sécurité. Mais je tiens à préciser deux idées. D'une part, effectivement, on subit, comme le dit Bruno Duvic, la surfréquentation des musées. Et la France est le pays du monde où la fréquentation est la plus importante. Et d'ailleurs, Laurence Descartes, quand elle est arrivée, la présidente du Louvre, a voulu réduire la jauge d'accès du Louvre pour que le confort de visite soit plus important et la sécurité à la fois des œuvres et des visiteurs soit plus important. Il va sans doute falloir en arriver là, parce que c'est aussi une caractéristique de la sécurité. Et l'autre élément, c'est que effectivement, la protection, le patrimoine des œuvres, ça demande beaucoup de budget et qu'il ne faudrait pas avoir deux discours, un discours quand il n'y a pas de problème de dire on peut réduire le budget de la culture et un autre, quand il y a un drame comme celui qui s'est passé, de dire il faut l'augmenter. Et on a besoin de la culture, ça attire énormément de touristes, c'est essentiel à l'humanité, à notre bonheur, et la culture est rentable contrairement à ce qu'on...
Et on rappelle que le Louvre, c'est le musée universel par excellence, hein, c'est ce qui a été créé par les révolutionnaires après la Révolution. Hein.
C'est le musée universel, et dites-vous bien aussi que quand le Louvre à Abu Dhabi a été créé, cette question d'universalité a été repensée, revue comme elle est repensée aujourd'hui l'histoire de l'art, puisqu'elle a été dans le Louvre à Abu Dhabi, dans les collections permanentes, encore plus élargie, en créant des confrontations entre l'art occidental, l'art asiatique, l'art africain, alors qu'avant il y avait des salles dédiées dans le Louvre tout court, et que donc du coup on est toujours en train de relire l'histoire de l'art, et pour aller vers une plus grande universalité, plus juste, une plus grande place des femmes artistes qui avaient été oubliées, et c'est ça qui est fabuleux dans ce qu'on est en train de vivre, et honnêtement... On a le plus grand musée du monde, le plus visité au monde, avec les plus grands chefs-d'œuvre. Parce que quand je parlais des musées chinois qui ont créé au cours des 20 dernières années énormément de musées, leur problème, c'est qu'ils n'ont pas de collection. Nous avons des collections uniques au monde.
Et merci beaucoup, merci Fabrice Bousteau d'avoir aussi bien parlé du Louvre et de ses collections. Je rappelle que vous êtes directeur de la rédaction de la revue Beaux-Arts. La suite, c'est avec vous Frédéric Saïs, et tous les soirs Frédéric, vous remettez le monde à l'endroit.
Et quand les États-Unis font alliance avec la Russie et l'Iran, ça se passe dans les négociations sur le climat.
A tout de suite. Miracle. Reveal yourself to me. Miracle. Your help could set me free. Miracle from above. Holy. Thank you.
dawn forever in me. Which I may never be free. Curse from down below.
Holy.
Sœur miraculeuse du Canadien Mac DeMarco, Holly, dans la playlist de France Inter ce soir. Et à 18h39, voici Frédéric Saïs, Le Monde à l'endroit.
How dare you?
The world has changed.
Christelle Rebière. Le 18-20.
Une question ce soir, Frédéric. Comment les États-Unis ont coulé un projet de taxe mondiale sur les navires polluants ?
Et ce n'est pas un sabotage discret dans le secret des négociations. C'est une opération menée au grand jour. D'ailleurs, le chef de la diplomatie américaine s'en est félicité bruyamment hier sur les réseaux sociaux. Énorme victoire pour les États-Unis, écrit Marco Rubio. Un enthousiasme qui contraste avec l'abattement du négociateur en chef des Nations Unies sur ce dossier. Négociateur qui a même demandé aux délégués présents de ne pas applaudir à la fin de la séance, contrairement à la coutume. Alors de quoi s'agit-il ? Depuis 2 ans, une centaine de pays négocient pour créer une taxe sur la pollution du transport maritime. Les cargos, les ferries, les navires de croisière sont responsables de 3% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Il s'agissait donc d'inciter les armateurs à verdir leur flotte, à la rendre moins dépendante au pétrole sous la menace de cette taxe. Objectif neutralité carbone dans 25 ans, en 2050.
Et cet accord était tout proche d'être obtenu il y a encore quelques mois.
Oui, encore avant l'été, une majorité de pays y était favorable. Alors, pour saborder cet accord sur la taxe maritime, les États-Unis ont multiplié les pressions pays par pays. Ils ont menacé de restrictions sur les visas, de rétorsions commerciales, de boycotts économiques. Résultat, la majorité s'est inversée. Une quinzaine de pays a changé de camp. Et en fin de semaine dernière, ce projet de taxe maritime a été ajourné, reporté d'une année. Un report qui ressemble en fait à un enterrement parce qu'on voit mal pourquoi Washington, dans un an, aurait changé d'avis.
Bon, cela dit, les États-Unis qui refusent un accord sur le climat, c'est pas vraiment nouveau. Hein.
Et ça ne date d'ailleurs pas de Donald Trump. Souvenez-vous du protocole de Kyoto, oui. Il y a près de 30 ans, premier traité international juridiquement contraignant pour les émissions de gaz à effet de serre. Le président américain s'appelle Bill Clinton, un démocrate, et son pays refuse de ratifier cet accord. D'ailleurs, il ne sera pas plus ratifié sous George Bush, refus du président républicain en 2005. La différence, c'est qu'à l'époque, George Bush avait tout de même reconnu publiquement la responsabilité humaine dans le changement climatique. Son refus s'abritait en fait derrière des considérations économiques sur la croissance. Cette fois-ci, rien à voir. Donald Trump qualifie le dérèglement climatique de canular. Par ailleurs, il refuse le multilatéralisme, les normes internationales au nom de la souveraineté américaine. Autrement dit, si l'on parle d'une règle verte pour Donald Trump, ça fait 2 gros mots dans la même phrase.
Et pour obtenir la peau de cette taxe carbone sur les bateaux, Washington n'a pas hésité à nouer des alliances assez baroques.
Oui, pour faire basculer la majorité, Christelle, les États-Unis se sont associés aux Saoudiens. Jusque-là, rien d'étonnant, mais ils ont aussi reçu le soutien des Russes et même de l'Iran. On voit là se dessiner une sorte de ligue des pétroliers, une alliance des hydrocarbures, un club du CO2. En face, les partisans de la taxe carbone, ce sont les Européens plus le Brésil. Quant à la Chine, elle s'est faite discrète. Voilà les coalitions qui se forment en ce moment, loin des blocs traditionnels. En voyant ça, un professeur de relations internationales aurait de quoi s'arracher les cheveux, me confiait cet après-midi un négociateur européen. Sur le climat, on voit donc poindre des alliances contre nature dans les deux sens du terme.
Merci Frédéric, et à demain. Le reportage d'Un jour dans le monde est en Indonésie ce soir. Fin août, la Gen Z a embrasé le pays dans une vingtaine de villes. Les 15-24 ans sont descendus dans la rue pour dénoncer la corruption et l'allocation logement des députés. 2600 euros par mois, 10 fois le salaire minimum. Puis la mort d'un chauffeur de moto-taxi écrasé par un 4x4 de la police a radicalisé le mouvement. Un mois et demi après la révolte, les manifestations se sont essoufflées, mais la frustration persiste. Et c'est Juliette Chénion, notre correspondante, qui raconte.
Dans une salle des beaux quartiers de Jakarta, Virdhian, 25 ans, enchaîne les selfies. Une cinquantaine d'étudiants l'écoutent parler de démocratie. Il a plus de 200 000 abonnés sur TikTok et Instagram.
J'essaie de faire comprendre à ma génération que tout est politique. Le régime, l'oligarchie, ils essaient de nous laisser dans le flou. On lutte contre ça.
Sa génération, c'est la génération Z, les 15-24 ans, à la tête des manifestations du mois dernier. Virdhian a tout documenté sur les réseaux sociaux.
Voilà, ça, c'est l'extrait d'un direct que j'ai fait pendant une manifestation à Jakarta. J'ai dit que le gouvernement devrait avoir peur qu'on fasse comme la Révolution française. Ils volent l'argent du peuple pour vivre une vie de luxe. Et ça met ma génération en colère.
En Indonésie, 16% des jeunes sont au chômage. Virdhian dénonce aussi la crise économique et la politique d'austérité du gouvernement.
Notre génération s'allie aux travailleurs, aux taxis, aux mères de famille, à tous ceux qui pensent que l'État doit garantir plus de justice.
Symbole de la colère, les mototaxis partout dans le pays, ces conducteurs à la veste vert fluo slaloment dans les embouteillages. L'un d'entre eux accepte de nous rencontrer, mais anonymement. Il vit dans un quartier populaire de Jakarta et se fait appeler Brian.
Voilà, ça c'est ce que j'ai gagné aujourd'hui, 136 000 roupies.
Soit 6 euros par jour, moins que le salaire minimum.
Le problème, c'est surtout quand il pleut, c'est compliqué pour nous. Et puis quand on est coincé dans les bouchons, il fait très chaud. Et je suis déçu du gouvernement car on a du mal à gagner notre vie. Nos revenus sont faibles, c'est difficile de s'en sortir.
Mais en août, même la classe moyenne en déclin a manifesté un tournant. Dans une barre d'immeubles grisâtres, nous rencontrons Boulan, jeune diplômée de 31 ans, les cheveux courts. Elle a, comme beaucoup, été licenciée et cherche un travail depuis 7 mois.
Pourquoi c'est si difficile de vivre dans mon pays, de trouver un boulot? J'ai envoyé 200 CV, mais on me dit que je suis trop qualifiée. Et le gouvernement n'en a rien à faire de nous.
À part un remaniement ministériel, le gouvernement n'a pas donné de réponse concrète aux manifestants. Boulan se dit donc prête à retourner dans la rue.
Notre frustration est tellement grande, c'est bien plus fort que la peur.
La peur, c'est celle de la répression. En août, il y a eu 10 morts, plus de 3000 arrestations et au moins 900 personnes sont toujours emprisonnées, dont des mineurs. Une violence inédite, d'après Ousmane Hamid, directeur d'Amnesty International en Indonésie.
Je m'attends à d'autres manifestations dans les mois à venir. Le gouvernement n'a pas mis en place de commission d'enquête indépendante, ce qui était l'une des principales revendications formulées par la société civile afin que justice soit faite.
Comme lui, beaucoup de militants en sont persuadés, quelque chose a changé en août. C'était la troisième vague de révolte en moins d'un an et peut-être le début d'un mouvement plus radical et déterminé.
Reportage en Indonésie signé Juliette Chénion. La suite, c'est Guillaume Audin qui récupère les infos passées sur les radars. Bonsoir Guillaume.
Bonsoir et direction le Laos où les mineurs de crypto se préparent à abandonner la pioche.
Et la BO du monde comme tous les lundis, Cyril Sauvageau.
Au Maroc, les rappeurs donnent de la voix en soutien aux manifs de la génération Z.
Et on parlera notamment du Mali sous les radars, mais pour l'instant, l'une des plus belles voix de ce pays, celle de Rokia Traoré. Que puis-je pour toi mon amour, Kamounke. Bon début de soirée avec nous sur Inter.
Akamunke, dienye monka mundima. Akamundi, dienye monka munkiye. Dienye mana wara nyadoma, moye kela jonle dimfa. Akamunke. Monkey, yeah. Yeah, you man, I want a yard, ma. Moye ke.
oye la marala do de fe sabe jugu mambe wula jankono ofena na maraba mukela nya wonyama jombe ni de nyaba waiti nya la nya wonyama ambe na maraba
akamuke ni nya munka munima
ofo
akamundi ni nya munka munkie
Traoré Kamunke, sorti il y a 12 ans déjà. Et ça fait toujours autant de bien. Sous les radars, les infos rattrapées au vol par Guillaume Audin.
Et
direction le Mali, justement, pour commencer, où un groupe djihadiste veut imposer le port du hijab complet à toutes les femmes qui circulent dans ce pays de tradition musulmane.
Voilà, par exemple, de Bamako à Gao, en passant par Tombouctou, toutes les Maliennes qui veulent voyager d'une ville à l'autre en autobus, en taxi, brousse ou en voiture, auront obligation de porter un voile intégral. C'est en tout cas cette règle qui tranche avec les usages au Mali, qui a dicté en Bambara l'homme qu'on a entendu, l'un des chefs du JNIM, un groupe terroriste lié à Al-Qaïda et qui cherche à imposer ses règles aux autorités maliennes. Alors il faut dire que depuis plusieurs semaines, le pays est secoué par de violentes attaques de camions-citernes, une pénurie de carburant menace, sur fond d'enlèvement à répétition. Les militaires au pouvoir sont débordés, leurs alliés russes sont effacés. En échange d'un retour à la normale, si l'on peut dire, ils ont donc fini par plier. Les transports collectifs ont repris, mais à quel prix ? Celui d'une lente descente aux enfers où la population malienne est écartelée entre une junte autoritaire et l'obscurantisme de djihadistes mortifères.
Depuis la Turquie, tous les regards se tournent vers Chypre Nord, où le nouveau président fait le pari de l'autonomie face à Ankara.
Voilà, et c'était le programme de cet homme, Tufan Erurman, partisan d'une réunification de Chypre, divisée, vous le savez sans doute, depuis un demi-siècle en deux États. La République de Chypre, d'un côté, au sud, à majorité grecque, reconnue par la communauté internationale et membre de l'Union européenne depuis 2004. Et puis de l'autre, la République turque de Chypre Nord, uniquement reconnue par la Turquie. Et donc là où avait lieu l'élection présidentielle qui nous occupe, la victoire de Tufan Erurman, retenez bien son nom, marque un tournant et peut-être même un séisme politique sur cette île de Méditerranée orientale. Il était opposé au président sortant, adoubé par Ankara, un camouflet pour le pouvoir turc, parce qu'il l'emporte cet homme avec 63% des voix. Message des urnes est donc limpide. Avec cet homme, ancien avocat, ancien premier ministre, les chypriotes turcs réclament davantage de souveraineté et moins d'ingérence. Ils confient à leur nouveau président un mandat clair, la relance des pourparlers en vue d'une réunification, peut-être de Chypre. Rupture totale en tout cas avec la ligne défendue par un certain Recep Tayyip Erdogan.
Lào, người anh em thân thiết của Việt Nam.
Et on finit notre voyage au Laos. Ce pays a longtemps été l'Eldorado du Bitcoin. Eh bien, à partir de l'année prochaine, c'est fini.
Voilà, finito les cryptos, ça c'est pour la rime. Mais plus sérieusement, ce pays opère un véritable virage stratégique en décidant de couper le courant aux mineurs de crypto, ces monnaies numériques, le Bitcoin, l'Ethereum, le Doge, etc., qui pompent une énergie folle avant d'apparaître comme par magie sur des serveurs en surchauffe. Alors, c'est sûr, ça crée de la valeur, mais trop peu en regard de l'électricité consommée. Pourtant, le Laos n'en manque pas d'électricité grâce à ses barrages notamment. C'est même le pays de l'hydropuissance à bon marché en Asie du Sud-Est qui en vend à tous ses voisins, le Vietnam et la Thaïlande par exemple. Mais c'est un pays très endetté également, le Laos, justement parce qu'il a fallu financer et construire ces énormes barrages. Vientiane, c'est la capitale, choisit donc de réorienter le tir vers son industrie électrique, les véhicules, les batteries et aussi vers l'intelligence artificielle. En gros, tout ce qui crée des emplois, des vrais, et fait tourner l'économie.
Merci Guillaume, à demain.
À demain.
France Inter, le 18-20.
Et ce soir, Cyril Sauvageau, la BO du Monde, est au Maroc où le mouvement de contestation de la Gen Z se poursuit. De nouveaux rassemblements ont eu lieu ce week-end dans les grandes villes du pays. Et la musique accompagne ce soulèvement de la jeunesse. Les rappeurs marocains sont particulièrement mobilisés.
Oui, plusieurs d'entre eux s'efforcent de transformer cette colère en rimes et en musique. C'est le cas du rappeur Dada, originaire d'Agadir, la ville du sud du Maroc où tout a débuté en septembre et où les manifestations ont fait plusieurs morts depuis. فيلم مغربي نفس القصة فيزا وباسبور وكلي العصاب كل حصة نفس الديكور نفس الديسكور ما كان عندي وش ما كان خافو صاحبي غينسا كل شي فلا كبيسة وعيش بناد محور باقي مورا الصور كنتسنى النور كنتسنى الزار يزور قول لي صاري مورا الصورة واللي صار يصير هذا الواقع ماشي الأسطورة كبرنا بلا مصير تلعت من الناس مقورة سبع وصاني العناصر. Dans la vidéo qui accompagne ce titre inédit, des images de manifestants menottés, les paroles ironisent. C'est un film marocain, toujours le même scénario. Nous nous faisons frapper à chaque fois. Cet autre rappeur nommé Hamza Raïd ne dira pas le contraire. Lui qui a été arrêté 2 fois en 3 jours à Casablanca au tout début du mouvement, placé en détention. Depuis, il est sous contrôle judiciaire et attend son procès prévu dans quelques jours. Le hashtag Free Raïd, Libérer Raïd est devenu viral au Maroc. عيد شباب سعيد لقى الشباب مالغري مقودة يفوز عيد شباب بلاد الشباب مستشفى يتزاق يتحبس يتعوق عيد شباب بلا شباب كل شي شاب كل شي عاف كل شي شاف وتشوف عيد شباب دراري تهب قراي شوف سكوت وكون راه الشبيبة لا لقات غير شي اوكاز رب اون فراك تعوش راه الشبيبة عيات من جلد الداس فرمشتاين غترون
Et sur les réseaux sociaux, Cyril, nombreux sont les artistes à afficher leur soutien aux manifestants.
Et là encore, c'est la planète rap qui monte au créneau. Un engagement qui tranche avec la relative discrétion des autres artistes marocains. Les jeunes rappeurs, même les moins politisés habituellement, se retrouvent dans le rôle de porte-parole officieux de la Gen Z. C'est le cas notamment de celui qui est l'une des grandes stars du moment, El Grande Toto. لي قابلي بحالي نطيرو دينتي بغات لف البحور باللي مسك انا باغي نطيرو شريكي غير مالي وطير من لاطلس نجيب ناغو حياتي ضراني واخا كمل لك ضحك في الفيديو Il est aujourd'hui l'artiste marocain le plus écouté sur les plateformes. Il multiplie les collaborations avec les grands noms du rap français. El Grande Toto met toute sa force de frappe sur les réseaux au service du mouvement. Lui qui n'appartient plus vraiment à la génération Z, il a 30 ans cette année. La jeunesse en a assez, dit-il dans un post Instagram à destination de ses 4,5 millions d'abonnés. Cette jeunesse réclame le changement, la démocratie et la dignité.
La dignité, la justice sociale, des revendications, Cyril, qui reviennent dans tous les sit-ins du mouvement Gen Z 212.
Oui, ici, par exemple, à Casablanca, cette vidéo montre une jeune femme brandissant une pancarte parmi les manifestants. Cette jeune femme, c'est elle, Ktek, une des rares voix féminines du rap marocain. Yeah.
حنطلق لساني في زيش من طراب شكل ما كتلة بطلع ضربة تراجي انا اللوز لي فوس تراجي غاد فاي وطحو الدراز متيه فراجي القادة غاد استرنقرد لي جاني طرا صافي دروب داشي فاكن صرع اتشي اندي بلاسيز من جدودي نوت شوي سكيب هارتشي
Elle avait 15 ans à peine lors du précédent soulèvement de la jeunesse marocaine, mais elle avait déjà manifesté à l'époque, c'était en 2011, au moment des printemps arabes. Le mouvement du 20 février, comme on l'a appelé à l'époque, n'a pas débouché sur les réformes profondes que réclamaient les jeunes. Mais ceux qui ont vécu ce moment se souviennent d'un autre rappeur dont la musique avait servi de bande-son au mouvement. Il s'appelait El Haked, Mourad Berawat de son vrai nom, arrêté, emprisonné à plusieurs reprises par les autorités marocaines. Il a fini par s'exiler en Belgique. Ceux qui donnent de la voix aujourd'hui espèrent que ce nouveau soulèvement ne s'achèvera pas de façon identique.
بلادي غير اللي جاي يغشاص بك يدير ما بغى ويزيد يفقرك خلي يجيهم يديو خلي يجيهم يبنيو فوق ارضك ياك هما سبب مرضك فقروا الشعب وباعونا للغرب يا بلادي في كلام فيه الجيه ديالو كلشي ديالو ما كاين غير نصيب وشاد احسن منصيب حين تجيبو مالي بلادي باعوا البحر خلاو علينا السردين زادوا بناو
Bon rap au Maroc, Cyril, en ce moment.
Très bon rap au Maroc, ça raconte plein de choses.
C'est même assez excellent. Merci, on est à la mi-temps du 18-20 et la suite, c'est le journal de 19h avec Simon Le Baron, puis le téléphone sonne. Bonsoir Philippe Lefébure.
Bonsoir à tous.
Rédacteur en chef du 18-20, ce soir, les apprentis.
Et oui, le projet de budget 2026 prévoit des coupes et des coups de rabot sévères, de quoi décourager employeurs et apprentis. Lynn, je veux témoigner de la difficulté de mon enfant à trouver une alternance comme employé barman. Depuis que les conditions offertes par l'État sont moins favorables, les employeurs ont du mal à se décider. Vincent, des apprentis passionnés, des entreprises qui transmettent, il y en a énormément. Ne coupons pas la dynamique.
01 45 24 7000 et c'est le même numéro sur WhatsApp. On en parle tous ensemble à 19h20.